Le bistrot des ethnologues. Jeudi 5 novembre, l'ARCE, atelier de recherche comparative en ethnologie, recevait Véronique Moulinier au Baloir. Cette chercheuse au CNRS est venue nous présenter son dernier ouvrage intitulé La Retirada. Ce livre, œuvre collective de beaucoup de survivants et de descendants des camps de l'exil, nous met sous les yeux l'émouvante floraison de mots et d'images de l'année 1939. Véronique Moulinier nous en fait l'exposé dans ce bistrot des ethnologues.
Janvier 1939, voilà 3 ans que la guerre civile a éclaté en Espagne. L'issue de cet affrontement apparaît alors comme évidente, le camp républicain reculant inexorablement face à l'armée franquiste. Barcelone et plus largement la Catalogne est l'un des derniers bastions républicains, mais plus pour très longtemps. Cédant devant l'avancée de l'armée franquiste, la ville tombe le 26 janvier, déclenchant un exode massif de population. Civils et militaires, valides et blessés, hommes, femmes et enfants fuient l'Espagne en direction de la France, emportant avec eux quelques biens, dont les animaux. Les colonnes de réfugiés s'oppressent aux points de passage les plus accessibles, le Pertus, le col d'Arès, le col de la Balitre. La frontière franco-espagnole, d'abord fermée, est enfin ouverte, et c'est alors une foule dense, bigarrée, où les animaux se mêlent aux hommes, épuisés par une marche de plusieurs jours, apeurés par les rumeurs et les pilonnages de l'aviation, poursuivis par le froid, la faim et parfois la maladie, qui pénètrent dans le département des Pyrénées-Orientales, où rien n'a été prévu pour l'accueillir. On peut bien sûr dénoncer le manque absolu et coupable de clairvoyance des autorités françaises qui n'ont pas pris la mesure des événements dramatiques qui se déroulaient de l'autre côté des Pyrénées. Mais on peut aussi évoquer, suivant en cela l'analyse de l'historien Bartolomé Benassar, le manque de clairvoyance des autorités républicaines espagnoles qui s'étaient montrées d'un optimisme cruel, assurant que Barcelone résisterait, permettant un départ des civils non précipité, évaluant à un peu plus de 100 000 le nombre de personnes qui passeraient la frontière, et cela sur plusieurs mois. Ils seront 500 000, selon certains historiens, mais on comprend très bien qu'un décompte exact est parfaitement impossible, 500 000, et cela en 3 semaines à peine. Face à une telle situation, la précipitation et l'improvisation règnent en maître. Les réfugiés sont conduits et rassemblés dans l'urgence, là où il y a de la place, c'est-à-dire d'abord sur la plage d'Argelès, puis sur celle de Saint-Cyprien, toutes deux vite saturées, alors même que le flot transpyrénéen n'est pas tari. Or, le décret-loi du 12 novembre 1938 autorise la création de camps d'internement, solution pour laquelle on optera bien vite. Les camps d'Argelès et de Saint-Cyprien ont ainsi été construits dans la plus extrême précipitation, sans véritable plan d'ensemble. En quelque façon, je dirais plutôt qu'on a planté des barbelés autour de la plage, là même où l'on avait concentré les réfugiés. Dans un premier temps, tout manque. Il n'y a pas de baraque, les hommes doivent creuser le sol ou fabriquer des cabanes de branchage pour se protéger du froid. Il n'y a pas d'eau potable, ni de sanitaire. On se débrouille comme on peut avec l'eau de la mer, dont les effets sur les intestins d'organismes déjà fatigués sont, vous l'imaginez, redoutables. Le bord de l'eau prend ainsi rapidement le doux nom de boulevard d'Aladier ou boulevard des yeux noirs, pour des raisons qui n'est sans doute pas très utile que j'explicite. Suivront ensuite d'autres camps, le Barcarès, Agde, Bram, Sept-Fonds, le Vernet d'Ariège, Gurs, Rivesaltes, etc. Le camp de Rieucros, où seront essentiellement internées des femmes, est un petit peu différent. Premier des camps construits en France, il était destiné à l'origine à recevoir les Juifs du pays de Bade, expulsés après la nuit de cristal. On y enverra donc les femmes. Dans ces camps, les conditions de vie sont toujours difficiles, mais du moins, des efforts d'organisation, fût-elle absolument rudimentaire, ont été faits. Des baraques sont construites, des points d'eau sont mis en place, qui, s'ils ne respectent pas vraiment l'intimité, répondent du moins aux critères d'hygiène les plus élémentaires. À leur arrivée dans le département des Pyrénées-Orientales, les réfugiés sont en quelque façon triés. Le terme n'est pas des plus élégants, j'en conviens. Mais comment peut-on le dire autrement ? En effet, on procède à un grand partage. Les familles sont éclatées et certaines le resteront longtemps. Certaines d'ailleurs le resteront toujours. Femmes, enfants et vieillards sont envoyés dans des centres d'accueil un peu partout en France. Pour cela, les autorités réquisitionnent tous les lieux disponibles, depuis les centres de vacances, vides bien évidemment au cours de l'hiver, jusqu'aux usines désaffectées, sans oublier les bâtiments religieux. On comprend alors que le confort qu'offrent ces lieux pour le moins improvisés soit extrêmement variable, parfois acceptable, parfois parfaitement sommaire. Les hommes, eux, restent dans les camps du sud de la France. Cet épisode dramatique, brossé ici à très grands traits, est relativement connu. Plusieurs historiens l'ont finement analysé de façon récente. Et lorsque la direction de la culture et du patrimoine de la région Languedoc-Roussillon s'est adressée aux Garayes pour qu'une recherche soit conduite dans le cadre de la commémoration du 70e anniversaire de la retirade, la question s'est immédiatement posée. Sur quoi convenait-il de travailler ? Réaliser un recueil de témoignages ne semblait guère pertinent pour deux raisons. D'une part, les radios libres de Languedoc-Roussillon avaient pour projet de réaliser une vaste collecte de témoignages. D'autre part, les publications de mémoires ou d'autobiographies sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses concernant cet épisode. Il n'était évidemment pas utile de rajouter une pièce de plus à cet édifice. Par ailleurs, parcourant les écrits des historiens, une piste se dessinait. Tous notent que les camps ont été d'intenses foyers artistiques et intellectuels, mais sans pousser plus avant la réflexion, et surtout sans donner quelques exemples de cette création, de cette production. C'est donc à cette question de l'art dans les camps que j'ai décidé de consacrer ma recherche, non sans quelques craintes, je l'avoue. Où fallait-il aller chercher ces créations ? Et seulement, existaient-elles encore ? Le pari n'était pas aisé, mais ce n'est pas parce que ce n'était pas une raison suffisante pour ne pas essayer de le relever. Alors, certes, j'en conviens, montrer des images n'est pas très radiophonique, mais il me semble extrêmement difficile de parler de ces créations sans en montrer quelques exemples. Certaines d'entre elles figurent dans l'ouvrage « La retirade, mots et images d'un exode », d'autres sont inédites, parce qu'elles ont été trouvées au cours de ces derniers mois. Et du reste, le PowerPoint que je vais vous projeter a été fait sur un Mac, et il est projeté sur un PC, donc il peut y avoir des lenteurs et des différences. Je vous présente mes excuses, mais c'est totalement indépendant de ma volonté. Je ne peux pas, faute de temps, mais aussi parce que l'enquête mériterait d'être continuée plus finement, vous présenter un tableau exhaustif de tout ce qui a vu le jour derrière les barbelés. Disons simplement qu'on a le sentiment d'un monde aux prises avec une effervescence intellectuelle et artistique, tous azimuts. Derrière les barbelés, on peint, on sculpte, on réalise des maquettes. J'essaie de m'organiser. Donc on réalise des maquettes, en voici une réalisée au camp de Bram. Mais on fait bien plus que cela. On publie de petites revues informatives qui circulent à l'intérieur du camp. On donne des cours de dessin, de sculpture, certes, mais aussi de mathématiques, de langues, le russe par exemple, le français, et des cours de culture générale également. En voici une photo qui a été prise au camp de Gurs dans les Pyrénées-Atlantiques. On organise des conférences sur les sujets les plus divers, je ne vous en ferai pas la liste, mais c'est assez impressionnant. Des orchestres et des chorales voient le jour. Alors, il s'agit là d'une photocopie, je m'arrête un instant pour vous expliquer, il s'agit là d'un document qu'on n'a pas pu retrouver, on n'a pu retrouver que la photocopie, c'est quelqu'un qui l'a trouvé, qui l'a photocopié il y a de nombreuses années, donc la photocopie est de très mauvaise qualité. Une petite légende a été ajoutée. Ces documents sont très difficiles à trouver, ont parfois mal survécu au temps, et parfois on ne trouve plus que des facsimilés auprès de quelques collectionneurs un peu curieux qui les ont récupérés sans trop savoir ce dont il s'agissait parfois. Donc, on donne des chorales et des orchestres, on donne aussi des pièces de théâtre du répertoire classique français. Pardon, il s'agissait aussi d'une chorale. Je ne suis pas très bien installée pour arriver à faire les deux à la fois. Je l'avoue. On va essayer de faire comme ça. Une photo qui a été prise au camp de Bram, un orchestre au camp de Bram, pardon. Un orchestre au camp de Bram, à nouveau. Voici. une photographie prise au camp de Ryukro concernant du théâtre. On donne des pièces du répertoire classique, mais aussi des zarzuelas. Luisa Fernanda, l'une des plus représentées. On crée aussi des pièces de circonstance. C'est le cas à Ryukro où les internés créent, pourrait-on dire, Blanche-Neige à Ryukro, une pièce en deux actes, où comme dans le conte, Blanche-Neige, poursuivie par la haine de sa marâtre, est confiée à un chasseur afin qu'il la supprime. Comme dans le conte également, le chasseur se laisse attendrir et épargne l'héroïne. Mais ce que le conte ne dit pas, et pour cause, c'est que le chasseur au bon cœur lui propose de la conduire en un endroit où jamais la méchante belle-mère n'ira la chercher. Et c'est à Ryukro qu'il la conduit. De ces pièces, il reste aujourd'hui les clichés que je viens de vous montrer. Il reste aussi quelques textes, c'est le cas ici, quelques dessins. Il reste aussi quelques photographies, des troupes, des décors de théâtre. Mais plus rare, il reste aussi quelques... On a retrouvé récemment, on ne les a pas retrouvés récemment, mais ils ont pris sens récemment, une série de décors de théâtre que voici. Ils ont été réalisés au camp de Sept-Fonds dans le Tarn-et-Garonne. En voici un. En voici deux. Apparemment, c'est un paysage des Pyrénées. Troisième. Quatrième. Voilà. Il y en a d'autres encore. À cela, il faut aussi ajouter, les échecs. C'est une photographie prise au camp de Bram. Et les dames. Et le tableau ne serait pas complet si j'oubliais bien sûr les activités sportives, puisqu'il y a aussi toute une série d'activités sportives qui est donnée. Évidemment, le sport le plus pratiqué, c'est le football. Voici une affiche réalisée par Luis Bonet Lopez. Et voici une photographie d'une équipe de football. Je ne traiterai aujourd'hui que de la question de la production graphique, c'est-à-dire les peintures et les sculptures. Une telle activité est bien sûr destinée à lutter contre l'inactivité à laquelle sont réduites les internés. Rappelons qu'ils n'ont pas le droit de travailler. Inactivité qui ne tarde pas à provoquer des troubles psychologiques, connus sous le nom d'arénitis, la maladie de la langueur née du sable. Stimuler, mobiliser l'esprit et le corps des internés, faire en sorte qu'ils ne se laissent pas aller au désespoir et à l'ennui, tels sont bien les objectifs explicites des syndicats étudiants et enseignants qui organisent, entre autres, toutes ces activités. Mais agissant ainsi, ils mettent en quelque façon de l'ordre dans le camp, organisant d'une part l'espace, des baraques sont exclusivement réservées à la culture, hiérarchisant, les hommes, il y a ceux qui gèrent les affaires culturelles, ceux qui donnent les conférences et les cours et ceux qui les écoutent, régissant le temps, puisqu'un emploi du temps très strict voit le jour, chaque heure étant dévolue à une activité bien précise, celle-ci se succédant à un rythme effréné. Ainsi, ces syndicats, ou du moins certains de leurs membres, apparaissent comme une sorte de gouvernement réduit à la stricte gestion de la culture, mais une sorte de gouvernement tout de même. Ces précisions que je crois indispensables poser, il est temps de plonger au cœur même de cette création, en s'intéressant tout d'abord à ses sources d'inspiration, à ses thèmes. Les sources d'inspiration, donc. L'épisode dramatique de la retirada et de l'internement va durablement obséder certains de ses créateurs. Citons par exemple le cas de Joseph Franz Klapers, né en 1915 et décédé en 2005. Il a connu les camps de Saint-Cyprien, de Gurs, et puis le camp de travail de Saint-Rémy-de-Provence, où la guerre finie, il s'installera. Il n'a cessé de peindre l'Exode et plus encore les camps, ses deux seules sources d'inspiration auxquelles il puisera tout au long de sa vie. On peut évaluer son œuvre à plus de 150 tableaux, traitant tous de cet unique sujet, certains peints à l'intérieur du camp, soit Saint-Cyprien, soit Gurs, soit Saint-Rémy-de-Provence, d'autres peints après. L'œuvre donc est commencée derrière les barbelés et continuée ensuite, hors de ceci. Ainsi, au camp de Gurs, il réalise une sorte de journal en images décrivant le quotidien derrière les barbelés. Voici la page. Ce journal a été exposé, il l'est peut-être encore, au musée de l'exil à la Jonquière. Voici la première page, histoire vécue, camp de concentration, Gurs 1939. Voici sa première page. Avec cette particularité, il y a toujours un dessin, une légende en catalan et en français. Un dessin en haut, un grand dessin en couleur et en dessous, une petite vignette en noir et blanc. Voici le camp vu de l'extérieur, avec les nuages qui cachent les Pyrénées. On est dans les Pyrénées-Atlantiques, tout près d'Oloron-Sainte-Marie. Voici une autre vue du camp avec les réfugiés. Voici une autre vue du camp avec les rails, qui est plus étonnant. Il y a une quarantaine de pages ainsi. À la fin de sa vie, il peindra encore une série de tableaux narrant ses premiers mois en Espagne, sur les routes et sur les plages des Pyrénées-Orientales. Un ensemble qui vient d'être acheté par la municipalité d'Argelès. Voici justement quelques-uns de ces tableaux, peints au cours des années 80-90. Il semblerait qu'il s'agisse là d'une conversation par-delà les barbelés, parce qu'un enfant est né et que le père que l'on voit de dos demande des nouvelles. Le repas, dans un camp saturé et extrêmement désordonné. Et enfin, le marché noir à l'intérieur du camp. Je ne sais pas si vous voyez bien. Autre créateur, le cas de Joseph Bartoli, qui est un tout petit peu différent. Interné au camp de Bram, il croque son quotidien sur un carnet de dessins. Croquis qui vont lui servir, une fois installé au Mexique, à illustrer diverses publications sur les camps de concentration français au cours des années 40. Cependant, lui passera très vite à autre chose, pourrait-on dire familièrement, se consacrant ensuite à d'autres luttes, la cause des Noirs et l'égalité des sexes, par exemple. Quelques images de ce carnet de dessins réalisé à Bram. Voilà, quelqu'un qui est en train de réaliser vraisemblablement un petit objet qu'il taille dans un morceau de bois, c'est pour ça que je vous ai mis cette image. Plusieurs ensembles, plus ou moins importants, ont ainsi été trouvés qui tous mettent en scène le quotidien du camp. Certains motifs sont extrêmement récurrents. On les trouve aussi bien dans les dessins que dans les clichés. Les internés ont pu introduire des appareils photographiques dans les camps et s'en servir de façon plus ou moins officielle. Alors, parmi ces thèmes récurrents, on note la question des installations destinées à l'hygiène et aux contraintes du corps. Installation, je le répète, un peu sommaire. Voici quelques images. C'est un dessin de Miro. Il est daté, signé, en plus avec le lieu, Argelès. C'est là un dessin de Luis Bonet López, qui a été interné, lui, au Barcarès, qui représente à nouveau la question du point d'eau. Et c'est à nouveau Luis Bonet López, on reconnaît son style, qui lui représente les tinettes et leur respect très singulier de l'intimité. C'est aussi le cas, autre motif que l'on retrouve fréquemment, les repas. C'est un dessin de Thomas Divy. Lui aussi a connu l'Odyssée des camps, puisqu'il a connu Argelès, je crois qu'il a connu le Barcarès aussi. Enfin, il a vraiment fait une Odyssée très longue. Il a laissé une dizaine de tableaux qui sont signés, on le voit très mal, ils sont signés et datés en bas à droite. C'est bien sûr la queue pour la distribution de nourriture lorsqu'elle est collective. C'est à nouveau Luis Bonet López. Et c'est Thomas Divy, j'ai ajouté ce dessin, je ne sais pas si vous le voyez bien. Il représente un interné. On imagine que les conditions de vie sont extrêmement difficiles parce que sa chaussure gauche laisse voir ses orteils, etc. Il est en train de manger quelque chose, vraisemblablement des racines, et on voit très bien l'emprunt au langage de la bande dessinée, puisqu'il y a un phylactère au-dessus de lui, dans lequel on voit un poulet, des légumes, je crois qu'il y a un cigare aussi, et une tasse de café, qui bien sûr se renverse, parce que le phylactère se casse les dents, si j'ose dire, sur la réalité qui n'est autre que le fait de manger des racines. J'ai ajouté aussi la question de l'intérieur des baraques qui a été souvent photographiée et dessinée. C'est une photographie prise au camp de Bram, photographie, on s'en doute, un petit peu posé malgré tout, mais qui montre bien la saturation de l'espace. Autre dessin d'une baraque, c'est French Clappers, qui là nous représente un espace beaucoup plus organisé, beaucoup plus nettoyé, beaucoup plus précis. Divi, à nouveau, non pas l'intérieur, mais l'extérieur d'une baraque. Et voyant l'extérieur, on imagine aussi l'intérieur. On voit le côté extrêmement bricolé des lieux. Et enfin, Miro, qui nous représente à nouveau une scène à l'intérieur des baraques. Mais il faut se garder de penser que ces œuvres ont vocation à saisir exactement, finement, précisément le réel, voire à le dénoncer. Il suffit pour s'en convaincre de comparer trois images du camp d'Argelès. Alors, pour des raisons que je ne m'explique pas, à cet endroit-là, il y a une sorte de petit bug. Et voilà, c'est fini. Cette image, c'est Izquierdo Carvajal qui l'a dessinée. C'est le camp d'Argelès. On la voit peut-être mal. Ce sont des baraques avec des tôles ondulées au-dessus, des pierres qui les empêchent de s'envoler avec le vent. Un désordre considérable à l'intérieur du camp. Quelqu'un qui prend de l'eau, etc. Autre vue, anonyme. On ne sait absolument pas qui l'a dessiné. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit d'une carte postale, puisque des cartes postales ont été réalisées à l'intérieur du camp, destinées à être vendues à l'extérieur. Celle-ci, son origine est précise puisque j'ai rencontré le propriétaire. Il était au camp d'Argelès, il avait 10-12 ans et c'est, me disait-il, un brigadiste qui la lui a confié en cadeau. Et il l'a encore. Alors, la marche arrière n'est pas simple et il n'y aura pas de marche arrière. Souvenez-vous de l'image précédente et de l'extrême désordre que l'on voyait. Regardez cette image-là, extrêmement le camp, il n'y a personne déjà. Les baraques sont extrêmement bien construites, il n'y a pas de désordre, tout est propre, tout est lisse, tout est net, et il n'y a pas d'interné. Bon, il y a des petits soucis, mais ça n'est rien. On n'est jamais trahi que par les siens et par la technique. Troisième carte postale, puisqu'il s'agit à nouveau... Je suis désolée, j'espère que ce genre de problème ne va pas se reproduire. Troisième carte postale, évidemment, une troisième vision du camp, beaucoup plus éloignée. Le Canigou, on pense que c'est bien sûr le Canigou, mais on imagine des influences. Le Paris des années 20 est passé par là. Un camp très organisé, plus organisé que la première image, un peu moins que la seconde, avec simplement deux petits personnages. Ces cartes postales, je le répète, étaient destinées à être vendues à l'extérieur. On comprendra bien sûr, je reviendrai tout à l'heure sur les raisons qui expliquent toutes ces différences. Cependant, le quotidien n'est pas la seule source d'inspiration. Tout au contraire. Prenons l'exemple de Giordano Stropolo, un brigadiste italien interné au camp de Gurs, où il a noirci les pages d'un carnet de dessin. Or, qui voit-on ? Il cessait une seule fois à dessiner le camp. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. C'est la seule image où l'on aura, où Stropolo essaiera de dessiner le camp, une guérite, quelques baraques, les Pyrénées derrière, des barbelés devant. Il y a à peu près une soixantaine de dessins, et tous les autres sont comme ça. Des images historiques, le barbare, un modèle égyptien, des silhouettes historiques, ou bien des fleurs et des fruits. Ou bien des architectures fantastiques. Une soixantaine de dessins comme ça. Tout le reste, donc, est constitué d'innocents motifs de fleurs, d'architecture ou de silhouettes historiques. Rien, bien sûr, qui ne fait penser au camp. Le crayon est ici clairement un moyen de s'évader du camp, de mobiliser ses connaissances antérieures, de renouer avec son passé. En effet, il avait appris le dessin industriel. En somme, un moyen de nier tout simplement son internement et non pas de le représenter. Intéressons-nous aussi aux réalisations de Gilberto Corbi, interné au camp d'Argelès. Il ne connaîtra que celui-là. Il peint quelques-uns de ses compagnons d'infortune. En voici un. En bas à droite, Corbi, il signe avec des guillemets à droite et à gauche de son nom, camp de concentration Argelès-sur-Mer. Et il date 1939. Voici un de ses compagnons. Voici un autre de ses compagnons. Il peint également un spahi. c'est ce qu'on a trouvé. Ces tableaux, qui font référence au camp, n'ont pas la prétention de dénoncer les conditions de vie terribles ou le poids d'une hiérarchie aveugle et sans pitié. Ils ont été peints dans le camp, mais auraient tout aussi bien pu être peints ailleurs, dans le cadre d'une relation modèle-peintre toute différente. Même le portrait du Spahi, que vous voyez là, dont on sait par ailleurs que les réfugiés espagnols se méfiaient, est comme sans affect, presque plat. Mais sa production ne s'arrête pas là. Il va aussi réaliser des portraits qui n'ont pas le moindre rapport avec le camp, dont on ne peut absolument pas savoir en les regardant qu'ils sont nés dans le contexte de l'internement. On a retrouvé un ensemble cohérent auprès de la même famille de descendants. Quatre portraits. Voici le premier, toujours signé, daté. Premier portrait. Deuxième portrait. Troisième, petite tendance à la caricature. Quatrième, voilà. De façon évidente, rien, absolument rien ne permet d'affirmer que ces tableaux ont été peints dans l'aura du camp. De même, rien ne permet d'associer le tableau qui suit, intitulé « Yvette, jeune fille de sept fonds », au contexte qu'il a vu naître, c'est-à-dire celui de l'internement des Espagnols, au camp de sept fonds, dans le Tarn-et-Garonne. J'ai évoqué les portraits, je pourrais tout aussi bien évoquer les paysages. Jesús Guillén Bertolín connaît le camp de Saint-Cyprien, puis celui d'Agde, le château de la Reynarde, mis à la disposition des candidats à l'exil par le consulat du Mexique à Marseille, et puis le camp de Bram. De cette épopée, qui l'amènera à connaître tout de même trois camps français, il peindra ce qui suit et que je vais vous montrer. Des natures mortes, c'est-à-dire son nécessaire de toilette, son ou un nécessaire de toilette, des casseroles. Il peindra aussi un paysage languedocien, puisqu'il s'agit de la route de Villa Savary à Carcassonne, parce que c'est écrit derrière, c'est daté, signé à nouveau et contextualisé. Des animaux, un chat qui joue, ou des animaux qui paissent, ici un cheval et une chèvre. On peut enfin s'intéresser à la production d'un certain José, interné au camp de cette fonte. Mais reconnaissons-le, sa production ne le laisse guère imaginer. Que peint-il? Une scène antiquisante avec vieillard chenu, odalisque et léopard, apparemment. C'est aussi signé. Une bohémienne devant sa roulotte. Une scène de cirque avec un clown. Deux équilibristes, dirons-nous. Et puis une scène très bucolique, une scène d'après Ben. Mais cette scène avec violoniste, décrit-elle une simple récréation musicale entre jeunes gens, ou décrit-elle, comme certains le prétendent, le drame que vivent les internés obligés d'aller à la rivière faire leurs ablutions, reconnaissant qu'il n'est pas facile de trancher. Seul le tableau suivant, où figure un homme sous la lune, enferme peut-être une allusion à l'internement, puisque l'église à l'arrière-plan et l'église de la Parade, visible depuis le camp de sept fonds, où Rosé était interné, et que les barbelés, mais est-ce que ce sont vraiment des barbelés ou une simple clôture, sont visibles à l'arrière-plan. Voilà, c'est à peu près tout ce qui peut, dans sa production, faire penser à l'internement. Une part non négligeable de cette création n'a donc pas pour thème l'univers du camp, mais traite de sujets très classiques, voire très ordinaires, qui sont presque intemporels, qu'on pourrait retrouver dans des contextes bien différents. Quant à ceux qui prennent l'univers du camp pour objet, on l'a vu, ils entretiennent avec celui-ci un rapport complexe, livrant pour certains d'entre eux une vision très personnelle des choses, très éloignée de la réalité, très idéalisée, comme nettoyée. En somme, pour le dire rapidement, on est aux antipodes d'une production qui se voudrait témoignage, qui n'aurait eu d'autre raison d'être que de dire, voire de dénoncer les conditions de vie inacceptables. Elle ne prétend pas forcément porter à la connaissance de tous les conditions de vie à l'intérieur des barbelés. Elle n'est pas reportage. Et pour comprendre ce caractère assez singulier, il faut s'intéresser aux conditions mêmes de cette création et à ses usages en 1939.
le bistrot des ethnologues. Jeudi 5 novembre, l'ARCE, atelier de recherche comparative en ethnologie, recevait Véronique Moulinier au Baloir. Cette chercheuse au CNRS est venue nous présenter son dernier ouvrage intitulé La Retirada. Véronique Moulinier nous en fait l'exposé dans ce bistrot des ethnologues.
Les conditions de la création, donc. Il faut ouvrir une parenthèse concernant la genèse de cet intérêt, très relatif certes, des historiens pour cette production artistique. Elle permettra de comprendre la perception gauchie qu'ils ont eue d'elle en découvrant son existence. Sans doute leur apparut-elle comme un oxymoron saisissant, presque incompréhensible, qu'on pourrait résumer ainsi. Elle a été intense, voire foisonnante, mais elle s'est développée dans une situation de dénuement et d'isolement extrême, du moins supposait-elle. Et c'est sans doute ce paradoxal constat qui a contribué à sortir cette création de l'ignorance absolue dans laquelle elle a longtemps été tenue. Mais ce paradoxe a aussi conduit à faire silence à son propos. En effet, comment articuler le dénuement et l'isolement des réfugiés avec cette effervescence ? Du reste, ne craignait-on pas qu'à mettre trop en avant cette production, quelques-uns y trouvent de quoi réécrire l'histoire, de quoi « prouver », entre guillemets, bien sûr, que l'internement n'avait pas été aussi terrible qu'on le prétendait. Enfin, ces quelques tableaux ne pesaient sans doute pas lourd face à la réorganisation politique parfaitement clandestine, mais bien réelle, dont les camps ont été le théâtre. Et ainsi s'explique sans doute que, bien que les recherches des historiens soient déjà anciennes, une vingtaine d'années au moins, aucun ouvrage n'ait encore été consacré à cette question. Tous ceux qui ont croisé cette question de l'art, donc, en ont fait une création de la récupération, de la sublimation des restes. Les internés auraient fait feu de tout bois, récupérant ce que le hasard mettait à leur disposition, les olons des animaux, qui servaient à rendre un peu moins maigre la soupe, les boîtes de nourriture, les boîtes de sardines dont ils étaient, hélas, pourvus régulièrement, ou les morceaux de bois, de morceaux de bois flottés, par exemple, pour ceux qui étaient sur la plage, les cailloux, etc. Et effectivement, une partie de cette création est clairement liée à la récupération. Prenons par exemple le cas de Giordano Stropolo, qu'on a déjà croisé, on a vu ses dessins, ses silhouettes historiques et les dessins botaniques. Parallèlement donc à ses dessins, il a aussi réalisé de petits objets à noce, dont voici quelques images. Petits objets à noce qui sont d'ailleurs toujours la propriété de son fils. Il s'agit d'un échiquier, mais ce dont... on ne se rend peut-être pas bien compte, c'est qu'il fait à peu près 10 cm sur 10 cm. Il est grand à peu près comme la main d'un homme. Et les petits, il ne manque pas une pièce. Et les pions font 1,5 cm à peine. Et ils sont vraiment parfaitement... ils ne sont pas grossiers, ils sont vraiment extrêmement bien taillés. Donc, Stropolo, c'est l'échiquier. C'est aussi beaucoup d'encriers, dont celui-ci, mais il y en a d'autres de beaucoup plus compliqués, je ne les ai pas mis. Il fut un grand producteur, si j'ose dire, de rondes de serviettes, vraisemblablement parce que c'est quelque chose qui se commercialisait facilement et qui était réalisé aussi facilement. Si j'évoquais le fait de la commercialisation, ce n'est pas tout à fait un hasard, retenez-le. Et il a réalisé ceci. Un petit avion, il fait une petite dizaine de centimètres, il semblerait... Alors, j'ai pas très bien compris ce qu'on m'a expliqué, mais il semblerait que ce soit avec des petits morceaux de brosse à dents qu'il ait fait les hublots sur le côté, par exemple, et des morceaux de récupération qu'il ait taillé les hublots du sommet. Voilà. L'avion existe toujours, et bien sûr, il est toujours entre les mains de son fils. Ces os ont, entre autres, servi aussi à la réalisation de bagues, dont celle-ci, réalisée au camp de Rivesaltes. Il y a les initiales dessus de celui qui en était le propriétaire, qui a connu le camp de Rivesaltes. Cela ne signifie pas, d'après sa fille, que ce soit lui qui l'ait fait, parce qu'il n'avait pas, me disait-elle, des talents d'orfèvre. Mais la voici vue sur le côté. Voilà. On songe bien sûr à l'art des poilus. Et c'est indéniable. Une partie de cette création est effectivement liée à l'activité de récupération. Cependant, n'y voir qu'une création née de la récupération, un art qui a vécu d'expédients, est réducteur. Et pour tout dire, cela contribue à tronquer gravement la réalité. Il suffit de regarder pour voir. Sur quoi Joseph Bartoli, dont je vous ai fait voir trois dessins, sur quoi Joseph Bartoli alors a-t-il dessiné? Sinon sur un cahier de dessin acheté dans le commerce au Grand Bazar Pommiès à Bram. Sur quoi Joseph Castel, qui a connu adolescent, il avait 12-13 ans, le camp d'Argelès. Sur quoi Joseph Castel a-t-il réalisé ses dessins, magnifiques du reste? Sur un cahier de dessin que voilà. Voici la couverture. D'ailleurs, il l'a signé en haut. De même, les couleurs dont se servent Corbi, Ferrer ou encore Guilhem Bertolin n'ont rien de couleur bricolée ou improvisée. Ça n'est pas du sang, ça n'est pas du charbon, par exemple. Mais ces couleurs semblent, elles aussi, on ne peut plus ordinaires, venant du commerce ordinaire. En réalité, cette production a été rendue possible aussi grâce à l'aide des associations humanitaires, essentiellement américaines au premier jour de l'internement, qui ont certes apporté de quoi soulager le quotidien des internés, lits, couvertures, vêtements, médicaments, mais aussi de quoi combler le vide des journées, peinture, toile, cahiers, crayons et livres aussi. Lisez l'autobiographie de Luis Montagu, c'est clair, c'est évoqué de façon très claire, ou celle de Francisco Ponce aussi. Ils le disent très très clairement. Mais ces associations ne sont pas les seules à apporter de l'aide aux réfugiés. La presse locale, certains journaux du moins, sont d'utiles relais. Ainsi, le Patriote des Pyrénées, dans les Pyrénées-Atlantiques, publie-t-il le 18 juillet 1939 un vibrant appel à l'aide aux réfugiés du camp de Gurs, demandant à ses lecteurs de leur apporter soit des objets, crayons, papier, livres, couleurs, soit de l'argent, afin de faire l'acquisition de ces objets. On pourra bien sûr objecter que le journal a pris son temps pour lancer cet appel, mais le camp de Gurs n'a été créé qu'au mois d'avril 1939. C'est aussi de l'extérieur du camp que provient une part des matériaux indispensables à l'éclosion de cette activité artistique. Une provenance qui n'avait, on s'en doute, rien de secret, rien de clandestin. Et en effet, il faut se garder de penser que cette vie artistique a vécu comme repliée sur elle-même, dissimulée au regard des autorités, vivant de façon clandestine à l'intérieur du camp. Bien au contraire, elle s'est déroulée au grand jour, non seulement acceptée mais aussi facilitée, voire encouragée par les autorités du camp. Du reste, elle n'est pas inscrite dans les seules limites du camp, qu'elle déborde de toutes parts. En réalité, ses œuvres n'existent que du fait d'un constant dialogue entre intérieur et extérieur du camp. Passons donc par-delà les barbelés. J'ai dit à l'instant le rôle que les associations humanitaires ont joué, procurant aux réfugiés les éléments indispensables pour créer. Mais elles ne font pas qu'apporter de quoi dessiner ou sculpter. Elles offrent également un débouché, pourrait-on dire, à ces artistes, achetant leurs créations, les encourageant à produire. Je reprends le cas de Gilberto Corbi, que l'on a déjà croisé. Il recevra ainsi, et la carte est encore dans le fond que possède son fils, il recevra ainsi les encouragements d'une certaine Madame Peace, qui lui a déjà acheté plusieurs cartes postales et qui l'encourage vivement à en réaliser d'autres sur le même modèle, car, assure-t-elle, certains de ses amis, on peut imaginer que certains de ses amis en Angleterre évidemment, souhaitent en faire l'acquisition. Et on peut imaginer que les tableaux, les quatre portraits qui sont extrêmement semblables que réalisés par Corbi, on peut bien sûr imaginer qu'ils ont été aussi faits sur commande, bien sûr. À ces actions individuelles, pourrait-on dire, il faut aussi ajouter les actions collectives. Ces associations, aidées des artistes locaux, ayant caressé l'idée d'une exposition de ces œuvres de l'internement, d'abord à Perpignan, puis dans quelques grandes capitales européennes comme Londres et Paris, et enfin américaines, New York. Le but était bien sûr de faire connaître ces artistes afin qu'ils disposent, vendant leurs œuvres, de moyens de continuer à produire et sans doute aussi qu'ils puissent quitter enfin le camp. Pour ceux qui s'y trouvaient encore. Le but, donc, était bien de les inscrire dans le marché de l'art, de leur faire une place aux côtés d'autres artistes non internés, et de montrer que les barbelés ne faisaient rien à l'affaire, et non de mettre en avant une éventuelle singularité. Ce mouvement de solidarité les appréhende en tant qu'artistes au sens plein du terme. Je le répète, il s'agit de montrer qu'ils sont des artistes, et non ces êtres dangereux assoiffés de sang que certains journaux dépeignent. Ils sont donc mis en avant en tant qu'artistes et non en tant que témoins. Les termes qu'ils abordent en sont tout à la fois la cause et la conséquence. On remarquera simplement que la guerre a arrêté ce mouvement qui devait conduire ses œuvres depuis Perpignan jusqu'à Paris, Londres et New York. L'exposition, bien sûr, n'a jamais eu lieu, mais ce qui est sûr, c'est que des caisses entières d'œuvres des camps ont été envoyées aux organisations humanitaires, puisqu'on en retrouve dans les archives les accusés de réception, etc. Donc ces œuvres existent peut-être encore ailleurs. On remarquera enfin que si la guerre est un sujet noble pour le peintre depuis longtemps, il n'en va pas de même pour l'univers des camps, bien sûr. La guerre, bien sûr, stoppera le projet d'exposition dans sa dimension internationale, je l'ai dit. Cependant, localement, les artistes des camps ont trouvé très rapidement un public. En effet, les membres d'associations humanitaires ne sont pas les seuls clients, entre guillemets, des artistes internés. Il faut y ajouter la population locale. Et le contexte de la création explique également les thèmes traités. Ainsi, à l'évidence, nombre d'entre eux travaillèrent sur commande à la demande de la population locale. Et dans ce cas, c'est bien sûr le client qui impose le modèle, souvent puisé dans son quotidien. Il semble par exemple qu'à cette fond, quelques-uns des interdits, avaient trouvé un débouché un peu singulier, puisqu'ils s'étaient fait une spécialité de peindre les compagnes des gardiens. Et on peut imaginer que peut-être Yvette, dont je vous ai montré tout à l'heure le portrait, était l'une d'entre elles. Qu'on se souvienne aussi des 4 portraits de Corby. Il est évident que ce sont des portraits qui ont été faits sur commande. D'autres utilisèrent leur savoir pictural afin de remercier ceux qui leur étaient venus en aide, de façon plus ou moins désintéressée. On vient de retrouver, mais je n'ai pas les images, je ne les ai pas reçues encore, on vient de retrouver 6 tableaux signés d'un certain Ferrer à cette fond. 6 tableaux qui représentent quoi ? Un portrait d'un couple, un portrait de 2 enfants, un tableau une vue d'une ferme, une vue du camp et 2 vues du village. Et on peut vraisemblablement imaginer que Ferrer, en fait, a peint ces 6 tableaux pour remercier ceux qui l'avaient fait sortir du camp en lui proposant un travail dans leur ferme. On peut l'imaginer, du moins. L'hypothèse reste cependant à confirmer. On peut également imaginer que cette fresque, peinte sur le mur d'une villa d'Argelès-Plage, relève du même type de relation. Alors ça, c'est un gros plan de la fresque. La voilà. Elle est peinte à l'intérieur d'une villa d'Argelès-Plage, sur un mur. Les propriétaires de la villa, descendante du propriétaire historique, n'a jamais recouvert cette fresque, elle y est toujours. Et elle croit se souvenir que c'est un républicain espagnol du camp d'Argelès qui faisait plus ou moins fonction de jardinier pour son père, qui lui avait laissé en souvenir de son passage ce tableau signé Blau. Voilà, mais c'est une hypothèse bien sûr. De même pour la fresque de Conesa et le buste de Lantada offert à la famille Secchi, des garagistes installés près du camp qui aidèrent les internés, œuvres qui sont aujourd'hui encore la propriété du descendant. Alors, c'est le buste, pas vraiment, réalisé par Lantada, c'est Madame Secchi. Il est signé et daté en bas, on le voit. Là, je l'ai photographié dans son univers habituel. Et là, je l'ai prise de face, dehors. Et ça, c'est la fresque de Conesa. Et pour des raisons évidentes, j'ai été obligée de la photographier dans son environnement parce qu'on ne peut pas évidemment la retirer du mur. Elle est dans le salon et elle y est toujours. Quant à Giordano Stropolo, dont je vous ai déjà parlé, il envoie plusieurs de ses petits objets à la famille Monjo Giudici, qu'il avait connue lors de son premier séjour en France et qui, tout au long de son internement, lui a envoyé des colis pour soulager son quotidien. On peut également évoquer le carnet de dessin en couleur qu'un certain Blas a peint au camp de Bram, où il a été interné, dont voici un dessin. Il ne l'a pas gardé sur lui. Alors, préférait-il s'en séparer plutôt que de le prendre sur lui ? Est-ce qu'il avait peur qu'on le... En tout cas, il l'a en tout cas donné au lieutenant du camp, un certain Bernier, et on peut se demander si en fait il ne l'avait pas composé en cadeau pour le lieutenant Bernier, parce que si tout va bien, voilà, il y a la dédicace, une sorte de quatrième de couverture du carnet, où l'on lit ceci, « Dédicacé au lieutenant Bernier, mon protecteur pendant mon séjour au camp de Bram, Blas, 1er avril 1939, avec un profil, juste une remarque, le monsieur à gauche, l'homme à gauche qui fume la pipe, c'est tout simplement le lieutenant Bernier, grand-père de l'actuel propriétaire du carnet. Et on peut se demander si le réfugié, c'est-à-dire celui qui porte la couverture, n'a pas un air assez proche du visage qui est là. Il apparaît donc clairement que cette production devient une monnaie d'échange entre l'intérieur et l'extérieur. Elle permet de remercier ceux envers qui on a le sentiment d'être endetté. Elle permet aussi de récupérer quelques subsides qui seront fort utiles dans le camp où le commerce a repris ses droits. Un commerce qui n'a strictement rien de clandestin, lui non plus, puisqu'un peintre en fait un tableau. Un poète écrira un long poème là-dessus, intitulé « Il Barrio Chino », du nom du quartier de Barcelone, quartier de tous les commerces. On peut considérer que ce commerce-là n'avait rien de bien secret non plus, puisqu'un journaliste de l'Indépendant des Pyrénées-Orientales lui consacrera un article très précis. Mais on le comprend aisément. Les circonstances de cette création induisent les sujets traités, la façon de les traiter. On se plie à la commande, on évite les sujets qui pourraient importuner les acquéreurs, on n'embarrasse pas ceux envers qui on se croit redevable, en leur donnant des images violentes du camp. Les créations artistiques, donc, on le voit, ces créations artistiques, n'ont cure des barbelés, qu'elles franchissent allègrement, vendues ou données à l'extérieur du camp. Mais ce qui vaut pour les objets vaut aussi singulièrement pour les hommes. Derrière les barbelés, la vie culturelle s'organise. Des coins de la culture voient le jour, c'est-à-dire que des baraques sont spécialement consacrées à la production artistique. Au camp du Barcarès, par exemple, elle s'appellera Palais des Expositions. On y présente la production des internés, dans toute sa diversité, parfois la plus déconcertante. Or, ces expositions sont moins destinées aux internés eux-mêmes qu'aux visiteurs extérieurs au camp, largement invités à en franchir les barbelés et à venir admirer les prouesses des internés. Et l'Indépendant des Pyrénées-Orientales consacrera plusieurs articles à ces singulières expositions, invitant ses lecteurs à s'y rendre, proposant de longues et fort alléchantes descriptions des œuvres présentées. Descriptions qui sont parfois tout ce qu'il reste des œuvres, mais qui permettent aujourd'hui de saisir toute cette diversité. Si les visiteurs entrent dans le camp, certains artistes en sortent, tout à fait légalement, du seul fait de leur judicieux coup de crayon. Ainsi, le cercle artistique oloronais adresse-t-il une lettre aux autorités du camp de Gurs, près d'Oloron-Sainte-Marie donc, je cite, « demandant que le réfugié espagnol Nicomedes Gomez, actuellement en permission provisoire à Oloron-Sainte-Marie, ne soit plus tenu de retourner au camp de Gurs, ce qui lui permettrait de donner libre cours à son activité créatrice ». Nicomedes Gomez, on connaît de lui une magnifique, des dessins extrêmement forts concernant le camp d'Argelès. On connaissait, je devrais dire, parce que lorsque Juan Carrasco publiera l'Odyssée des Républicains Espagnols, il fait figurer quelques-uns de ses dessins. Or, aujourd'hui, ils sont parfaitement introuvables. Peut-être à l'époque s'agissait-il, peut-être pas de photocopie, mais ils sont aujourd'hui introuvables. L'œuvre de Nicomedes Gomez a littéralement disparu. Ça ne veut pas dire qu'elle ait été détruite, mais pour le moment, on ne sait pas où elle est. Et d'autant qu'il pâtit à la fin de sa vie, Nicomedes Gomez, m'a-t-on dit, faisait un peu dans la bondieuserie. Et évidemment, cet aspect a tendance aujourd'hui à le dévaloriser, parce que les tableaux qu'il produisait, aussi bien quant à la facture qu'au modèle dans les dernières années de sa vie, était pour le moins différent de son passé. Et évidemment, tout a disparu. Mais sans doute, alors en 1939, l'excellence de son coup de crayon avait-elle été remarquée par ce cercle d'artistes du dimanche d'Oloron, qui espérait ainsi favoriser sa propre création, en obtenant bien sûr en échange quelques cours. On ne sait pas ce qu'il est advenu de cette demande. Par contre, on sait très bien ce qu'il advint de notre groupe d'artistes. Au camp d'Argelès, une petite dizaine de créateurs avaient associé leurs talents, multipliant les activités, réalisant ensemble une revue, Baraka, qui ne connut qu'un numéro. Mais on les comprend puisque ce seul numéro compta tout de même 45 pages. La voilà. C'est la couverture de Baraka. C'est quelque chose que ça a été fait à la main. C'est de façon... Pardon ? Ah non. Ça a été écrit à la main, dessiné au crayon de couleur, à la peinture, etc. Il y a des dessins, il y a des textes. Baraka écrit dessus. Je ne vais pas vous montrer toutes les images. J'en ai sélectionné deux ou trois. Voilà. Bien sûr, les dessins sont signés à chaque coup en bas. Voilà, le Cap Béar. Peint par Corbi, dont vous avez vu les tableaux tout à l'heure. Donc, Baraka, 45 pages de dessins, de textes aussi, largement diffusés dans le camp, mais aussi à l'extérieur de celui-ci. À tel point que cette revue ne manquera pas d'attirer l'attention de quelques personnalités locales sur le sort de ses internés. Cette revue va surtout attirer l'attention du propriétaire du château de Valmy, la famille Peich, qui vont offrir d'héberger ces internés qui ont créé Baraka dans une dépendance de leur château afin qu'ils puissent continuer à s'adonner à la peinture. Le mas de l'Abat, puisque c'est le nom de cette dépendance, ne va pas tarder à devenir un intense lieu de production artistique. Une autre revue, Desde el Rocío, voit le jour. La voilà. Elle comptera 5 numéros, très très largement diffusée localement. Je l'ai retrouvée dans plusieurs familles d'Argelès. Elle comptera 5 numéros. Il y a une charte graphique, en quelque façon, pourrait-on dire, puisque tous les numéros ont un air de famille. Et puis, c'est une revue, album artistico literario. Voilà. Avec un sommaire, bien sûr, comme toutes les revues. Des dessins et des textes. Au Mas de l'Abat, donc on publie cette revue, mais des expositions sont organisées à l'intérieur du Mas lui-même. Les artistes tiennent même un livre d'or qui est aujourd'hui la propriété du fils d'un des artistes, et donc j'ai pu consulter ce livre d'or. Des expositions sont organisées dans le Mas, mais aussi à l'extérieur, par exemple dans un des casinos de la côte, mais je ne sais pas trop lequel pour le moment, peut-être dans des mairies aussi. Les visiteurs peuvent acheter des œuvres ou passer commande. Et l'académie ne survivra pas, bien évidemment, à la déclaration de guerre, les artistes étant envoyés dans les groupements de travailleurs étrangers. Mais cette académie de Valmy n'est pas la seule du tout à exposer à l'extérieur du camp. Deux exemples que je prends parmi tant d'autres. La galerie Vivant, à Perpignan, en fait apparemment un salon de thé, va exposer les œuvres d'un certain Calico, une exposition auquel l'Indépendant consacrera plusieurs articles dans le journal comme pour mieux rappeler à ses lecteurs qu'il faut se rendre dans cette galerie pour voir les œuvres de Calico. Lequel journal, l'Indépendant des Pyrénées-Orientales, ne se contente pas d'appeler ses lecteurs à se rendre à l'intérieur du camp ou à la galerie Vivant pour découvrir le génie artistique des internés. Le journal lui-même organise dans ses locaux, rue de la Loge à Perpignan, une exposition de dessins humoristiques mettant en scène la vie à l'intérieur du camp, réalisée par un artiste dont on ignore tout, jusqu'au nom, puisqu'il signe Ego. Il faut croire que cette création artistique liée à l'internement prit de l'importance, occupa et peut-être mobilisa un temps le devant de la scène, puisqu'elle finit par provoquer la colère d'un journal d'extrême droite, du Roussillon, Somatinte, qui lui consacra un article tout de fiel et de haine, que je résumerai ainsi. Le journal dit en substance, il y a localement un snobisme qui consiste à apprécier les œuvres des artistes internés dans les camps. C'est scandaleux, il faut acheter les œuvres des artistes français, parce que les artistes français ont des difficultés, alors qu'on achète 1000 francs une œuvre passable dans les camps. L'article est beaucoup plus violent dans la façon de le dire, mais pour le fond c'est ça. Je conclurai cette présentation trop rapide et sans doute un peu trop longue aussi. Je conclurai cette présentation d'un univers qui reste encore largement à explorer, en soulevant un dernier paradoxe. Une partie de cette activité artistique est liée à la récupération, à la conversion des restes du quotidien, c'est indéniable. Mais il me semble que lorsqu'on a découvert ces productions, on a eu tendance à mettre l'accent sur ce point, à vouloir n'en faire que ça, au prix d'une cécité évidente, au risque de travestir les faits. Un seul exemple le prouve, les petits journaux édités dans les camps par les syndicats étudiants ou enseignants. Certes, ils sont de facture grossière, souvent manuscrite, mais pour qu'ils existent, il fallait à tout le moins du papier en petite quantité, mais en quantité tout de même. Il fallait aussi de quoi écrire, des stylos, des plumes, des crayons de couleur. Toutes choses qui ne peuvent évidemment pas relever uniquement de l'activité de récupération et de conversion des restes. Une partie non négligeable de cette création s'est donc développée grâce à de l'aide extérieure qui n'avait rien de clandestin, dans un cadre organisé et soutenu par les autorités du camp, mais aussi par les institutions extérieures, qu'elles soient politiques, culturelles ou associatives, ainsi que par des personnes privées. Un soutien qui a clairement pour but de soutenir une activité pensée comme artistique. Et c'est bien là l'essentiel, le paradoxe sur lequel je voudrais attirer votre attention. Ces créations ont été pensées, par ceux-là même qui les ont réalisées, comme relevant de l'art, avec un A majuscule. Ils agissent en artistes et non en témoins. Ils font de l'art et non du reportage. Et c'est bien ainsi que les journalistes qui leur ont consacré des articles, que les visiteurs locaux et étrangers qui les ont découverts, les ont eux aussi appréhendés. Or, cette qualification n'a pas résisté au temps et pour tout dire, elle a été très éphémère. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les créations disparaissent purement et simplement de l'horizon intellectuel. On n'en entend plus parler, on ne les voit plus. Et on comprend très bien pourquoi. Parler de ces créations, ce serait parler de l'internement des Espagnols et au-delà des camps français, sujet sur lequel, alors et pendant longtemps, on va faire silence. Un silence qui durera bien sûr plusieurs décennies. L'anthropologie l'a montré, l'art n'est pas une donnée intangible, mais bien une invention sociale. Et c'est clairement le cas de la production artistique dans les camps de l'Exode de 1939. Si ces créations ont échoué à entrer dans le monde des arts, ce n'est pas pour leurs qualités esthétiques ou pictorales, mais c'est bien en quelque façon pour des raisons politiques. Merci.
C'était le Bistrot des Ethnologues. Cette émission vous a été proposée par l'ARCE et mise en onde par Divergence FM. Prise de son, Eliel Kaïm, montage Bruno Bertrand pour Divergence FM.